Alors, l'importance de la photographie par les Noirs américains, notamment à ses débuts, a été largement négligée dans l'histoire de ce médium. Miles Orwell note que lorsque le daguerréotype est arrivé aux États-Unis en 1839, la plupart des Noirs américains vivaient comme la propriété physique des Blancs. Cela s'est traduit par deux types de représentation des Noirs par le nouveau médium, soit dans des rôles de servitude ou comme spécimens dans le cadre d'enquêtes pseudo-scientifiques sur les différences raciales entreprises pour justifier davantage l'esclavage. Donc, dans les premières images, les Noirs apparaissaient, je cite, « comme des objets d'analyse et non comme des êtres humains sensibles », pour citer Orwell. Cependant, lorsque les photographes noirs ont commencé à produire des daguerréotypes, nombre d'entre eux ont braqué leur objectif sur leur propre peuple, et c'est ainsi qu'a commencé le lent processus visant à arracher l'image du noir américain à ses origines racistes, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Le but de ma rapide présentation sera de montrer comment les Afro-Américains sont graduellement passés du statut d'objet de représentation à celui d'acteur de la représentation artistique, mais également identitaire, en faisant un focus sur trois grandes périodes. Les studios photographiques des Noirs américains au début du XXe siècle, puis quelques photojournalistes qui se sont engagés dans la défense des droits civiques dans les années 50 et après. Enfin, nous terminerons par une présentation très succincte de quelques artistes contemporains ou ultra-contemporains qui continuent d'œuvrer pour la mise en lumière de la communauté noire aux États-Unis. Dans sa phase naissante, le processus d'appropriation du médium photographique fut mené par des photographes noirs qui possédaient des studios commerciaux. Ce fut l'un des principaux moyens par lesquels ils pratiquèrent la photographie pendant les 150 premières années d'existence de cette forme d'art. Ces hommes et quelques femmes créèrent des entreprises dans leur communauté à travers le pays, documentant les gens et la vie qui s'y déroulait. De nombreux penseurs et leaders, de Frederick Douglass à W.E.B. Du Bois, par exemple, expliquèrent que la culture visuelle dominante ne traitait pas les Noirs et leur corps avec attention ou affirmation. Le photographe de studio devint donc une source de fierté et d'images valorisantes pour les Noirs américains. Lorsque le nombre de photographes noirs commença à augmenter, plusieurs d'entre eux apprirent sur le terrain, car la technologie cinématographique n'était pas conçue pour rendre correctement les tons de peau des Afro-Américains, et cette information ne figurait pas dans les manuels professionnels. Les photographes noirs apprirent donc des uns et des autres, et par la pratique, à photographier efficacement leurs clients. Néanmoins, même s'ils étaient libérateurs, ces espaces pouvaient aussi être très restrictifs en termes de prescription de classe et de genre. La politique de respectabilité était un facteur important dans la manière dont les gens de cette époque voulaient que leur photographie soit présentée, adoptant par conséquent des codes de représentation issus de la communauté blanche d'un milieu social aisé. Il n'était donc pas courant de voir différentes représentations de professions, de niveaux économiques ou d'expressions de genre et de sexualité. Ainsi, si ces studios étaient une source d'inspiration, ils pouvaient aussi être restrictifs pour certaines parties de l'identité noire. Le photographe de studio noir le plus célèbre est James Presley Ball. James Presley Ball était un maître de la photographie qui utilisa son art pour lutter contre l'esclavage dans ses campagnes abolitionnistes. Ball était un homme dont les compétences en matière de photographie évoluaient avec la technologie de l'époque. Homme d'affaires avisé qui fonda une communauté d'artistes prospères, Ball commença son activité en proposant à sa clientèle des daguerréotypes coûteux. Plus tard, il adopta le tirage photographique, plus abordable, afin d'attirer une clientèle plus nombreuse et de maximiser ainsi ses revenus potentiels. La Great Daguerrean Gallery of the West de Ball, basée à Cincinnati, devint l'une des galeries de photographie les plus célèbres des États-Unis. Pour vous montrer l'importance de James Presley Ball dans la photographie américaine au sens large, on peut citer le fait qu'en 1992, un daguerréotype de Ball datant de 1851 a été vendu 63 800 $. À l'époque, il s'agissait d'un record mondial pour la vente d'un daguerréotype aux enchères. Alors que les photographes de studio, en particulier les photographes de studio noir, étaient considérés comme étant en dehors des développements de la photographie d'art, ils intégraient néanmoins les avancées technologiques et esthétiques de leur époque. Ils étaient conscients de tout ce qui se passait dans ce domaine et étaient capables d'adopter des techniques picturales comme la faible profondeur de champ, des négatifs très retouchés et d'autres éléments que l'on associe souvent à la photographie pictorialiste telle qu'elle était pratiquée à l'époque par Alfred Stieglitz au début du XXe siècle. Par conséquent, ils introduisirent ces techniques pictorialistes dans le studio de portrait, comme en témoigne l'œuvre de James Van Der Zee. Ce dernier s'installa à New York en 1916 et devint rapidement le photographe le plus prospère du quartier de Harlem à Manhattan. Il eut des clients célèbres tels que l'activiste Marcus Garvey, le poète County Cullen et bien d'autres de la Harlem Renaissance, mais il réalisa également des portraits dignes d'une classe moyenne afro-américaine en plein essor, composée de propriétaires de maisons et d'entreprises. Le glamour et la compétence technique étaient les marques de fabrique de Van Der Zee. Son travail de studio, très technique, comportait des accessoires, des retouches et des doubles expositions évoquant les techniques pictorialistes de l'époque. On lui demandait souvent d'immortaliser des événements importants de la vie de ses clients, tels que des mariages, des funérailles et des événements sociaux. Les photographies de Van Der Zee conféraient une aura glamour à ses sujets et il ne ménageait pas ses efforts pour les mettre en valeur. Pour terminer sur cette première partie, j'aimerais souligner le fait que le travail dans les studios de portraits par les photographes noirs et blancs était souvent très sexué. Les portraits en studio impliquaient de retoucher le négatif pour masquer les imperfections et parfois de teinter les tirages. Ce travail était souvent effectué par des femmes. Elles font toute partie de cette histoire, mais leur nom ne figurait pas nécessairement sur le studio. Néanmoins, il existe un exemple de studio dirigé par une femme, celui de Florence Stein Perrow Collins à la Nouvelle-Orléans. Elle dirigea plusieurs studios à succès sous son nom, d'abord dans sa maison, puis dans un local commercial. Lorsqu'elle ouvrit son studio en 1920, elle était la première femme noire photographe de la ville et elle resta la seule pendant un certain temps. Dès la guerre de Sécession, de grands photographes noirs réalisèrent des portraits professionnels fascinants de noirs américains et de leurs familles. Ces images historiques, qui montrent souvent des personnes posant dans leurs plus beaux atours, rappellent leur dignité, leur résilience et leur affirmation de soi face à d'horribles discriminations, à des lois injustes et aux résidus racistes et violents de l'esclavage. Plus récemment, à partir de la Grande Dépression et jusqu'à aujourd'hui, les photographes noirs américains ont fait quelque chose d'encore plus important. Dans la grande tradition du photojournalisme, ils ont créé des documents visuels saisissants et pleins de compassion sur la vie quotidienne des Noirs dans leur communauté, capturant un sens viscéral de leur réalité quotidienne et révélant sa vérité sans phare. Cette volonté de documenter la réalité de la vie correspond aussi techniquement à l'avènement de l'appareil photo léger et transportable, qui permet aux photographes de sortir du studio et de se lancer dans le photojournalisme en plein mouvement des civil rights ou bien lors des émeutes raciales qui émaillèrent et continuent d'émailler l'histoire américaine. L'un des photographes les plus emblématiques de la deuxième moitié du XXe siècle est Gordon Parks. Il travailla pour la Farm Security Administration et réalisa l'une de ses photographies les plus connues, American Gothic, la très célèbre parodie du tableau de Grant Wood. Cette photographie à connotation raciale fut inspirée par les rencontres quotidiennes de Parks avec la ségrégation dans les restaurants et les magasins de Washington. Le sujet de la photographie, Madame Ella Watson, faisait partie de l'équipe de nettoyage qui travaillait sur les bureaux de la FSA. Parks continua à travailler pour documenter les inégalités entre les Afro-Américains et les Blancs dans la société américaine. Une autre des œuvres majeures de Parks à cette époque est une série de photographies datant de 1943 et décrivant un camp racialement intégré dans l'État de New York. Les photographies montrent des enfants jouant ensemble, cuisinant et profitant des joies de la colonie de vacances. Quelques années plus tard, la fascination du photojournaliste Monita Sleet Jr., lauréat du prix Pulitzer, donc sa passion pour la photographie, commença lorsque ses parents lui offrirent un appareil photo. Il obtint ensuite un diplôme de photographie dans le Kentucky, puis une maîtrise en journalisme à l'Université de New York en 1950. En 1955, Sleet rejoignit la Johnson Publishing Company et commença à prendre des photos pour les magazines Jet et Ebony. Il passa ensuite 4 décennies au sein de la société, couvrant les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, notamment la marche de 1963 sur Washington, D.C. et la marche de 1965 pour le droit de vote à Selma, en Alabama. Sleet couvrit également la montée des nations africaines indépendantes, notamment les célébrations de l'indépendance à Nairobi, au Kenya, en 1965. Il photographia de nombreux chefs d'État africains, mais il était également très demandé en tant que photographe de célébrité. Il obtint un prix Pulitzer pour sa photo de Coretta Scott King et de sa fille Bernice King au funérailles de son époux Martin Luther King. De l'autre côté, on reconnaît le portrait de Billie Holiday. Enfin, on peut aussi citer l'œuvre de Gerald Cyrus. Né en 1957 à Los Angeles, il commença à photographier dans cette ville tentaculaire en 1984. En 1990, il s'installa à New York et obtint un Master of Fine Arts à la School of Visual Arts en 1992. Pendant son séjour à la School of Visual Arts, il commença à travailler sur Kinship, un portrait axé sur la vie de famille afro-américaine. Pendant son séjour à New York, Cyrus photographia régulièrement dans les rues de Manhattan, Harlem et Brooklyn. En 1994, il commença à fréquenter les boîtes de nuit de Harlem, documentant la scène musicale dynamique de ce quartier historique pendant plus de 6 ans. L'œuvre qui en résulta, intitulée Stormy Monday, fut publiée sous forme de livre en 2008. En 2000, Cyrus s'est installé à Philadelphie, en Pennsylvanie, et a commencé à photographier dans cette ville, ainsi que dans la ville voisine de Camden, au New Jersey. Il a également beaucoup photographié à Bahia, au Brésil, où il a été boursier de la Fondation Sakatar, et à la Nouvelle-Orléans, avant et après l'ouragan Katrina, où il a des antécédents familiaux. J'aimerais, pour terminer, vous présenter quelques noms de photographes contemporains, voire ultra-contemporains, pour vous donner une idée de l'état de l'art photographique noir américain aujourd'hui. On peut citer, pour commencer, dans un domaine que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, Shamayim, qui est un photographe de mode international de grand talent. Il a le don de sublimer les vêtements portés, mais également les corps noirs. À l'instar d'un Gordon Parks du XXIe siècle, Shamayim prend parfois des photos dans des lieux exotiques pour créer non seulement un environnement, mais aussi une histoire pour la mode et un style de vie pour la beauté. Pour mettre à l'honneur les femmes photographes créatrices, on peut citer l'œuvre d'India Beale. En tant que modèle et source d'inspiration, elle s'est intéressée aux artistes qui intègrent des histoires personnelles afin de brosser un tableau plus large. Un autre thème important dans les œuvres de Beale est la remise en question de la conformité et des rôles de genre. Dans ses œuvres, Beale utilise des récits visuels exprimés à la fois dans des projets photos et vidéos qui se concentrent sur l'examen des expériences personnelles des communautés et des individus marginalisés, en se concentrant principalement sur les antécédents des femmes afro-américaines. Dans le projet « Am I what you're looking for ?», elle s'est concentrée sur la représentation de jeunes femmes noires éduquées entrant sur le marché du travail. Son travail est remarquable en ce qu'il documente et raconte des questions sociales d'une manière souvent ironique et toujours respectueuse de ses sujets. Dans son œuvre, c'est le spectateur qui est mis au défi de réévaluer ses préjugés. Une autre photojournaliste afro-américaine de renom est Chandra McCormick, qui photographie avec son mari Keith Calhoun. Tous deux documentent le mode de vie des communautés afro-américaines de Lower Ninth Ward à la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane rurale. Les photographes enregistrent tous les aspects des communautés en voie de disparition, capturant la vie quotidienne, les célébrations, les rituels et le travail pour préserver les histoires culturelles. Ils se sont eux-mêmes qualifiés de gardiens de la culture. Photographiant principalement en noir et blanc, ils prennent des portraits individuels et de groupe. Leurs photographies s'inscrivent dans une perspective de commentaire social. Ils ont photographié des dockers, des travailleurs de la canne à sucre. À partir des années 1980, ils ont photographié les hommes afro-américains emprisonnés à l'Angola State Penitentiary, en collaboration avec l'auteur-compositeur Aaron Neville, pour un ensemble de travaux intitulé « Slavery, the Prison Industrial Complex » qui a été exposé en 2014 à la Nouvelle-Orléans. J'aimerais terminer par le travail d'une autre artiste afro-américaine pour contrebalancer les nombreux artistes masculins que j'ai pu citer en première et deuxième partie. Il s'agit d'Alana Ayrton, dont le travail transcende les frontières traditionnelles dans ses compositions captivantes. En mettant l'accent sur l'éclairage, la mise en scène et les processus faisant référence à des époques particulières de l'histoire de l'art, ses portraits et ses natures mortes acquièrent souvent une qualité picturale qui invite les spectateurs à explorer des histoires et des récits cachés qui ont conduit à un manque de représentation fidèle et honnête des Noirs américains. Son travail remet en question les idées préconçues en incorporant des procédés numériques et cinématographique, ainsi que la manipulation et la construction d'images, offrant une nouvelle perspective sur la nature même de la vérité. Influencée par le pouvoir et la beauté des Afro-Américains, la force et la créativité des femmes, et le rêve d'un monde où les individus sont libres de façonner leur propre vie sans interférence, Harrington trouve son inspiration dans les couleurs, l'éclairage et l'échelle des peintures de la Renaissance flamande du XVIIe siècle, ainsi que dans l'héritage des photographes de studio noirs des XIXe et XXe siècles. Pour conclure, cette dernière artiste nous permet de revenir au début de la photographie des artistes afro-américains, montrant plus d'un siècle d'engagement pour la reconnaissance de l'identité d'individus, d'une communauté et d'artistes qui se sont affirmés par le biais des portraits réalisés dans des studios noirs, mais aussi par le biais du photojournalisme qui permet à une minorité de reconquérir une dignité et une mémoire trop longtemps bafouée. Les artistes contemporains continuent d'œuvrer en ce sens, montrant au même titre que le mouvement BLM, Black Lives Matter, que Black Art Matters. Merci.